Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. La vie, c'est toujours la même chose. Il y a des problèmes d'ordre général, comme la défense des services publics, à savoir la santé, l'éducation et la culture, par exemple, dont l'intégrité ne devrait jamais être remise en cause. Et je crois qu'on n'a pas fini d'en parler. Et puis, les problèmes individuels, comme celui qui m'affecte aujourd'hui et dont je vais vous dire un mot, puisque je sais bien que rien de ce qui me touche ne vous est tout à fait indifférent, n'est-ce pas ? Bon, je me suis fait voler mon ordinateur, ce qui est plutôt fréquent, me dit-on, et comme tous ceux à qui cela arrive, je suis dans une panade noire. Rien de compromettant, je vous rassure, pas de sextape ou de vidéos vaguement zoophiles qui traînent dans les coins, même si j'entretiens, c'est vrai, des rapports très affectueux avec mon chat, ou encore des informations sulfureuses sur tel ou tel homme de pouvoir, non. En fait, mon truc le plus compromettant, c'est le 06 de José Garcia, si vous voyez ce que je veux dire, non. Ce qui m'embête, c'est l'attachement sentimental à des souvenirs, des dogs, des photos de famille. Et puis oui, allez, je l'avoue, ma collection complète de photos d'Eva Green, que je venais juste de compléter avec des photos d'Eva Green, astronaute. Et de cela, je suis inconsolable, même si j'ai la vraie Eva Green juste en face de moi, qui me toise de ce regard qui précipite encore un peu plus la fonte des banquises. Cela dit, si mon voleur est à l'écoute, il peut toujours me rapporter mon ordi à France Inter, je lui en serai infiniment gré. Eva Green est l'invité de Popopop.
France Inter. Popopop.
Bonjour Eva Green.
Bonjour Monsieur Antoine.
Re-bienvenue dans Popopop et avec aujourd'hui une émission bio, une émission verte, une émission green. Eva Green, avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la planète rouge, car dans Proxima, le nouveau film d'Alice Vinocourt, vous jouez le rôle d'une astronaute française qui s'apprête à quitter la Terre pour une mission d'un an. À mes côtés, celle qui continue de préférer les bains aux douches. Bonjour Charline.
C'est faux, Antoine. Decaune. Bonjour Eva.
Vous êtes green aussi, Madame Roux.
Oui.
Ok, d'ailleurs, quand on est roux, peut-on être vraiment green? C'est oui. Une question que je pose tout à fait en l'air comme ça. Bien, au menu également de Popopop, le réalisateur pop Rian Johnson, réalisateur à qui nous devons des épisodes de Breaking Bad ou encore l'épisode 8 de Star Wars, les derniers Jedi. Mais aujourd'hui, il nous présente Knives Out, ou en français, à couteau tiré, en VF, avec son nouveau thriller. Rencontre tout à l'heure. Mais avant ça, ma chère Eva Green, ici, il existe une question. Une question qui fait encore plus flipper que n'importe quel thriller. Et cette question, c'est...
Eva, pour vous, c'est quoi la pop culture? Je parle depuis ma station orbitale.
Ça, c'est une question badaboum qui me fait très peur, parce que je ne peux pas vous répondre clairement.
On n'attend pas de réponse claire, je vous rassure.
C'est... Oh là là. Comme ça,
qu'est-ce que ça vous évoque quand je vous dis pop culture?
Pop culture, peut-être années 90, quand j'étais ado, je sais pas, Madonna, Michael Jackson, comme ça, spontanément.
Mmh. Ouais. Tim Burton, peut-être?
Je sais pas. Peut-être si vous voulez le mettre dans le pop culture,
bon,
allons-y.
Oui, on est en plein dedans avec Tim Burton. Bien. Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses, vous savez, évanescentes, hein, grinatives, ou même évagrinatives, essentes. Et avant que vous me répondiez, j'avais eu celle de Tim Burton, justement, avec qui vous avez tourné. Écoutez ce qu'il en disait, lui.
My whole life.
Mais c'est ma vie. J'ai grandi. Dedans. Je suis né en 58, donc j'ai grandi dans cette époque de pop culture, oui. Avec la télévision nulle et toutes ces séries, tous ces trucs-là, ouais, c'était ça.
Ça se recoupe.
Oui, et puis là, il aime bien les films de série B, tout ça, les films que personne ne voit, un peu nuls. Ouais.
Vous aussi, vous aimez ça?
Non, mais ça peut être comique, j'imagine, de temps en temps. Ouais.
Alors, la pop culture, Eva Green, on va en parler dans la suite de Popopop, juste après Walking in the Dark, c'est signé Métronomie.
Just holler if you need me, girl. Just holler if you need me, girl.
Metronomy Walking in the Dark, cet extrait de Metronomy Forever, le dernier album de ce petit groupe briton qu'on aime bien. Pop, pop, pop. Vous écoutez Pop, 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 l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Eh oui, et nous sommes aujourd'hui avec une icône de la pop culture qui a joué avec une autre icône de la pop culture. Mais oui, Dumbo, et heureusement pour nous, elle est venue sans lui aujourd'hui. Mais qui est-elle, réponse avec son pop portrait? Alors oui, votre pop portrait, Eva, c'est votre portrait bien sûr, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline Rougrin, Rougrin, Rougrin.
Ça marche pas.
Non, ça marche. Non.
Aujourd'hui, une invitée dont j'espère qu'elle a négocié une prime de risque ou à défaut un gros compte pénibilité, parce qu'on ne peut pas franchement dire que les femmes qu'elle incarne à l'écran soient du genre oisives, pépouses en charentaise à la maison. Notre invitée a été certes une innocente, mais c'était quand même en mai 68. Dans Kingdom of Heaven, elle a été la reine de Jérusalem. Et à la fin du 12e siècle, autant vous dire que c'était quand même moyen serein. Un agent britannique travaillant pour le trésor de Sa Majesté et le groupe d'action financière, et on sait bien à quel point côtoyer Bond est mauvais pour la santé. Une reine du clan des sorcières, et comme elle était âgée de 300 ans, vous imaginez bien, comme le moindre geste ou sort devait être fatigant, même avec une boussole d'or. Une autre sorcière, mais cette fois meurtrière, dans Dark Shadows. Une femme fatale qui pousse les hommes à de bien sales besognes dans Sin City. Une ombre, une, capable de manipuler le temps et directrice du pensionnat pour enfants particuliers, ce qui est quand même une grosse grosse tâche, une certaine Miss Peregrine. Une trapéziste, alors même qu'elle a le vertige, tout ça pour les beaux yeux d'un éléphant au dents Dumbo. Et aujourd'hui, comme tout ça n'était finalement que très peu contraignant, elle s'astreint à quitter sa famille et la terre dans Proxima, dont je vous dis les choses sont très peu pour elle, et même au cinéma.
Vous n'êtes pas du genre pépouse en charentaise, Eva Green.
Non, le quotidien me fait peur.
C'est donc, vrai
Oui.
Pourquoi est-ce qui vous inquiète tant?
Non, je veux dire que c'est que j'aime bien m'échapper de la réalité et jouer des personnages un peu hauts, en couleur, ouais. Voilà.
Romanesque.
Voilà.
Bah, sans faute, hein, quand on regarde la vidéo.
Bon, Eva Green, je vous propose, comme dans votre film, de quitter la planète Terre, mais cette fois-ci direction la planète Pop, puisque c'est l'heure de votre pop list. Oh. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, votre choix, Eva Green, s'est porté sur les nouvelles de Stefan Zweig. Charline, si je dis que Stefan Zweig a écrit quelques-unes des plus belles biographies qui soient, comme par exemple celle de Marie-Antoinette, vous me répondez sûrement, d'accord, mais là, Eva, elle, a choisi les nouvelles. Et vous avez raison.
Bah, d'accord, ouais. Mais là, Antoine, Eva a choisi les nouvelles.
Et vous avez raison.
Et du coup, dans l'œuvre colossale de cet écrivain, romancier, nouvelliste, dramaturge, biographe, essayiste, poète, vous avez opté pour quoi? Plutôt Prater Frühling, Die Wunder des Lebens, Ein Mensch, Den Mann nicht vergisst, Angst?
C'est de l'allemand, ça, d'accord. Bien, alors nous avons choisi pour vous 24 heures de la vie d'une femme, Eva, ou plutôt, comme nous sommes attachés au titre en VO, Virundzwanding Stunden aus dem Leben einer Frau. Auriez-vous la gentillesse de nous en lire un extrait, s'il
en
vous
allemand?
Plaît. Non, en français.
D'accord. Alors, dans la petite pension de la Riviera, où jadis je logeais, 10 ans avant la guerre, une violente discussion avait éclaté à notre table. De manière imprévisible, elle menaçait de dégénérer en une brutale querelle, voire même en animosité et en insultes. La plupart des gens n'ont qu'une piètre imagination. Ce qui ne les touche pas directement, ce qui ne fend... Attention, je n'ai pas la suite. Ce qui ne fend pas leur sens à la manière d'un coin pointu, ne semble qu'à peine les émouvoir, mais qu'un jour, juste sous leurs yeux, à proximité directe de leur sens, se passe une chose insignifiante. Alors cela éveille en eux une passion infinie. Ils pallient ainsi la rareté de leurs engagements par une véhémence inconvenante et démesurée. Mmh. Ouh là là.
Bien, 24 heures de la vie d'une femme, Stefan Zweig, lu au micro de Pop 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 par Eva Green. Alors, pourquoi Winterzugswanding Stunden aus dem Leben einer Frau? Pourquoi les nouvelles?
Pourquoi les nouvelles? Parce que il sait parler au cœur des femmes comme jamais. Il va droit au cœur. C'est toujours, il arrive à dire l'indicible. Il y a quelque chose, je sais pas. On se demande, il a dû être femme dans une autre vie. On sait pas comment ces hommes arrivent à faire ça. Et c'est comme quand on écoute une musique qui nous touche profondément. On a du mal à dire exactement pourquoi. Et là, c'est un peu la même impression.
Charline, vous êtes femme, si je ne m'abuse?
Oui.
Ça vous fait aussi ce genre d'effet, Stefan Zweig?
Oui.
Oui. Ça touche aussi cette
corde sensible? Oui, tout à fait.
D'accord. Comme quand vous me parlez. Mmh. Enfin bon, c'est contractuel. Flatteuse.
Et Eva Green, pour le film, vous avez choisi Vislingar Ochrop, plus connu sous le nom de Cris et chuchotement. Le film réalisé par Ingmar Bergman en 72. Charline, tiens, je vous lance un défi. Pitchez-le nous en suédois. Attention, parce que Eva a la nationalité suédoise.
Si alors, ma maîtrise du suédois s'arrête à school, offenstru, et comme ça vient des nuls, je suis très circonspecte quant à l'usage de cette locution. Donc plutôt, je vais le faire en VF si ça ne vous ennuie pas. Dans un manoir vivent trois sœurs, Agnès a d'un cancer est en train de mourir. Karine, Maria et Anna, la servante, se relaient à son chevet, mais jalousie et manipulation s'invitent aussi à cette veillée funèbre.
Would you mind listening to me for a little while? Only a moment. I just want to tell you that I have made a film for you. Perhaps just for you. I wrote a screenplay about four women who met for a few days in dramatic circumstances. I asked four magnificent, wonderful actresses, who are my friends, to play the four parts. Harriet Andersson, Ingrid Thulin, Kari Sylvain, and Liv Ullmann.
Et nous entendions le maître Ingmar Bergman parler de son film en anglais, fort heureusement, enfin présenter ses actrices. On est dans un film très dramatique, hein.
Ouais.
C'est loin de Mary Poppins.
C'est pas comique. C'est sûr.
Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans Crier chuchotement?
Alors, c'est déjà Bergman. Bergman, mon père est suédois. Je ne parle pas suédois. Enfin, je connais que des mots un petit peu cochons. Je n'oserais pas.
Mais allez-y, Eva, c'est en suédois, c'est pas grave.
Non, parce qu'après, il faudra traduire.
Non, allez-y, je vais voir si je le connais.
Kenkelberg.
Oh, mais c'est pas très cochon, ça. Non? Ça veut dire tu es mon petit oiseau?
C'est ça. Non, oui. Exactement. C'est un mot d'amour. Non, mais il y a vraiment une envie pour moi de connecter avec mes racines nordiques. Uh-huh. Et depuis très jeune, je regarde les films de Bergman, qui sont quand même assez costauds, assez denses. Et je suis tombée sur Cris chuchotement, peut-être quand j'avais 12 ans. Et c'est quelque chose qui m'a, comment dire, qui, un peu comme Stéphane Zweig, ou je sais pas, qui vous va droit au cœur et qui est très dramatique. Il y a des images comme ça extraordinaires, comme par exemple cette servante, cette nounou qui prend soin de cette femme très malade. Ouais. Il y a des images comme ça où elle lui donne le sein. C'est comme des peintures, des scènes très intenses, très bergmaniennes, très intérieures, intenses comme ça, et qui sont d'une
C'est-à-dire que des films qu'on voit à 12 ans et qui vous marquent à ce point-là, c'est qu'effectivement, oui, ils touchent quelque chose d'essentiel.
Oui, oui, c'est très noir, on peut pas expliquer pourquoi. Ouais. Et je me souviens surtout de ce rouge qu'il utilisait dans ce film. Tout est visuellement extraordinaire. Et puis beaucoup de frustration comme ça entre ses sœurs. Beaucoup de non-dits, ce qui est extrêmement suédois. Ouais. Voilà.
Vaut mieux que ce soit des non-dits, parce que s'il le dit, comme on ne comprend pas.
C'est ça. Bon, ça brouille le message, de toute façon.
Alors, nous avons un film, nous avons un livre pour la série. Eva Green, vous avez choisi Tchernobyl, la mini-série de Joanne Renck, diffusée sur HBO. Charline, je sais que vous irradiez de bonheur en travaillant à mes côtés, mais aimeriez-vous irradier tout court, genre Tchernobyl?
Non, car je n'ai pas la puissance d'un réacteur de centrale nucléaire, ça ne vous aura pas échappé. Et j'essaie tous les jours de ne pas être la pire des catastrophes causées par l'homme.
You are dealing with something that has never occurred on this planet before. If we don't find out how this happened, it will happen again.
Tchernobyl, classé deuxième meilleure série de tous les temps par le site IMDb, juste derrière Breaking Bad. Vous la mettez en numéro 1, Eva?
Oui, total numéro 1.
Alors, pourquoi?
Alors, c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir choisi des choses très noires.
Non, pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Je ne peux pas vous laisser dire une chose pareille.
Je l'ai vu dernièrement et ça a été une vraie claque dans la figure. Il y a un côté un petit peu documentaire et en même temps la photographie est extraordinaire. C'est un réalisateur suédois, je crois d'ailleurs. Et il y a même quelques moments de poésie dans ce chaos. C'est assez extraordinaire. Il y a aucun espoir, on connaît, on sait ce qui, je sais pas si vous connaissez malheureusement la fin.
Mal.
mais il a réussi à filmer quand même quelque chose d'impossible, avec beaucoup d'émotions retenues. Ouais, et ça m'a remué les entrailles, cette histoire. Ouais.
Voilà, tout pour autant d'arguments qui me semblent hautement recevables. Eva, terminons votre pop list avec votre chanson culte, et cette chanson, c'est celle-ci.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me.
Fly Me to the Moon par Julie London. Emmène-moi jusque sur la Lune. Une chanson de circonstance, hein, j'ai envie de dire.
Voilà, j'ai fait exprès.
Film. C'est une chanson que vous écoutiez en préparant le film ou c'est une chanson que vous aimez vraiment profondément?
C'est une chanson que j'aime profondément et je trouvais que c'était aussi un clin d'œil à Proxima de ouais. To Fly to the Moon.
Bien, alors je résume. Stéphane Zweig, cri et chuchotement, Tchernobyl et Julie London. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne
Would you mind listening to me for a little while?
You are dealing with something.
Fly me to the moon and let me play among the stars.
I just want to tell you that I have made a film for you.
That has never occurred on this planet before.
Perhaps just for you.
In other words, please be true.
I wrote a screenplay about four women.
In other words, I love you.
Alors cela éveille en eux une passion infinie. Ils pallient ainsi la rareté de leurs engagements par une véhémence inconvenante et démesurée.
Et voilà ce qui trotte dans la tête d'Eva Green. Oh là là. On est le 25 aujourd'hui.
Oui, mais mélanger, c'est pas si dark que ça, en fait.
Oui, heureusement qu'il y a Julie London pour égayer toute cette noirceur.
Nous sommes en fait le 26. Ça vous plaît, ma petite centrifugeuse de pop culture?
Je suis très impressionnée, oui.
Eva Green, dans votre chambre d'ado, il y avait des posters de Blur, m'a-t-on dit. Alors, retournons-y dans cette chambre, écoutez Girls and Boys.
We'll be right back.
c'était Popopop, Antoine Decaune
et Charline Roux.
Eva, Jolie, Longoria, Mendes et Green sont les premiers résultats qui tombent quand je tape Eva sur Google. Mais aujourd'hui, rassurez-vous, nous ne sommes pas avec Eva Jolie, mais Eva Green, qui est très jolie. Eva Green, vous êtes à l'affiche de Proxima, le nouveau film d'Alice Vinocourt. Dans ce film qui sort demain, vous êtes Sarah, une spationaute française qui se prépare à quitter la Terre pour une mission d'un an. Elle se prépare à tout, surtout à la séparation avec sa fille de 8 ans. Bande annonce dans 5, 4, 3, 2. C'est marrant, hein? 0.
I never thought that one day I'd be saying the last mission before Mars, and yet here we are making last preparations for the long journey.
T'attends pas la lumière.
Aye, aye, Captain. Tu savais que ta maman allait partir un jour? Ça te fait très peur, un peu peur.
Un peu peur.
On entendait en ouverture la voix de Matt Dillon, votre partenaire dans le film, dans Proxima. Et je sais que quand on vous a proposé le rôle de James Bond Girl, ce qui vous a plu, c'était le personnage, une femme d'action et surtout une femme qui avait des choses à défendre, disiez-vous. Est-ce que vous pourriez dire la même chose du rôle de Sarah, cette spationaute?
Ah oui, ouais. C'est un personnage très riche, très... comment dire, assez complexe, qui est constamment déchiré entre sa passion d'astronaute et son amour pour sa fille. Donc oui, c'est un personnage très costaud.
Oui, parce que c'est une femme d'action de type héroïne, certes, mais c'est aussi, vous le disiez, une mère qui essaie de faire coïncider ses ambitions et la maternité. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film sur l'espace, mais aussi un film sur la charge mentale?
C'est, la conquête spatiale est, ouais. est en arrière-fond, mais c'est avant tout une grande histoire d'amour. Voilà. Après, oui, c'est un film assez féministe qui encourage les femmes à s'accomplir pleinement, à suivre leurs rêves, même si cela signifie aller à l'encontre de ce qu'attend la société, à l'encontre des conventions. Mais oui, je pense que c'est avant tout une histoire d'amour.
Eva Green, c'est pas le pitch Eva Green dans l'espace qui vous a plu, mais le scénario, un scénario qui vous a fait pleurer à la première lecture, dites-vous.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'il a déclenché ce torrent de larmes, ce scénario?
Voilà. Je me souviens, j'étais dans l'Eurostar et mon agent me dit tiens, la réalisatrice voudrait te rencontrer.
Pardon, vous connaissiez son travail précédent?
Oui, j'avais vu Augustine au cinéma. Ouais. Le sujet déjà me fascinait, c'est un sujet sur la folie. Ouais. Et j'avais vraiment beaucoup aimé et je me souviens avoir été impressionnée parce que c'était son premier film. Et après, j'avais vu Maryland. Mmh. Et c'est toujours des personnages qui sont un peu déchirés entre leur vie professionnelle, leur vie personnelle. Des personnages assez tiraillés.
Mais là, ce scénario, donc, vous a fait venir les larmes aux yeux.
Oui, bah c'est encore une fois, je suis très romantique. C'est cette histoire d'amour avec sa fille qui n'est pas facile et qui y a beaucoup d'obstacles tout au long. Ça m'a bouleversée.
Ça vous a pas fait pleurer, Antoine? Parce que si vous pleurez pas en voyant le film, c'est que vous êtes un peu mort à l'intérieur,
je suis
quand même.
Très romantique, très sentimental.
Moi, j'ai beaucoup pleuré en voyant le film.
Et j'ai la larme facile au cinéma, figurez-vous.
Ouais.
Oui.
Pour le tournage, vous avez eu accès à des lieux jusqu'ici jamais filmés, le centre d'entraînement de Cologne, la ville fermée de Star City près de Moscou, le cosmodrome de Baïkonour. Alors un petit pas pour l'homme, un grand pas pour le cinéma. Quel effet est-ce que ça fait de se retrouver là-bas?
Ça, c'est un des grands privilèges d'être un acteur, c'est de pouvoir explorer des univers comme ça, sacrés. Et surtout, oui, de tourner à Star City, il faut passer plein de contrôles de sécurité. C'est une ville qui est complètement dédiée à la conquête spatiale. Je me suis entraînée avec des vrais entraîneurs russes. Et puis Baïkonour, là où les fusées décollent. Là, c'est quand même assez incroyable. C'est comme si on rentrait dans une dimension de Star Wars. Il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose de sacré. On est en transition entre la Terre-Mère et l'au-delà. Enfin, c'est absolument magique.
Vous avez eu un conseiller très chic pour le film, celui que vous appeliez le Godfather. Eh oui, Thomas Pesquet, en personne. Autant directement s'adresser à celui qui a touché les étoiles, n'est-ce pas?
Oui, c'est très chic. Oui, il m'a coaché.
Qu'est-ce qu'il vous a appris ?
Oh là là, c'est... Il nous a donné plusieurs conseils concrets, techniques, mais surtout j'ai pris conscience avec lui que c'était un métier, enfin une vocation plutôt, mmh. dirais-je, très exigeante. Il faut être investi à 300%. C'est intense émotionnellement, physiquement. Ils ont une culture extraordinaire. Ils parlent 5-6 langues. Et il y a cette soif d'aller au bout de soi-même, de se dépasser. Oui, ils endurent. Et d'ailleurs, lui-même le dit. Il dit no pain, no gain. Mmh. Donc oui, pas de souffrance, pas d'évolution.
C'est ce qu'il y a dans les salles de gym, ça. Non, mais c'est vrai. Ça. C'est ce que j'ai dans ma salle. No pain, no gain.
Ouais.
Si tu souffres pas, t'as pas de progrès.
Vous êtes prêts à partir dans l'espace, je pense. Oui. Pas trop loin.
Non, mais c'est des masos. Ouais. C'est des masos. Dans enfin, je veux dire, ils sont, il y a ce sacrifice qui est assez, assez fascinant.
Oui, oui.
Les femmes représentent, alors arrêtez-moi si je dis une bêtise, actuellement 10% des astronautes, ce qui est quand même très peu. Le film montre bien que c'est un univers très masculin où tout est conçu pour les hommes, à commencer par la forme et le poids des combis. Est-ce que vous avez aussi rencontré quelques conseillères féminines ?
Oui, j'ai rencontré Claudie Agnéré, Samantha Cristoforetti. Et c'est des femmes très très fortes hein. Comme ça c'est très intéressant parce qu'on a dîné chez Samantha avant de faire le film et elle avait un bébé de 6 mois et elle voulait montrer qu'elle pouvait faire encore plus que qu'un mec quoi c'est ouais bon j'ai un enfant mais bon c'est je peux faire des tractions tout de suite je peux faire mieux parce que on dit beaucoup que les femmes quand elles commencent un entraînement ne montrent pas de photos de leur progéniture aux autres pour comme c'était perçu comme une faiblesse, alors que les mecs tout de suite, voilà, regarde ma photo, machin. Il y a une espèce de complexe. Oui, c'est un film quand même qui pose plein de questions et qu'est-ce qu'on fait? Comment en tant que mère se débarrasser de ce sentiment de culpabilité quand on travaille? C'est assez complexe.
C'est un film qui est Proxima qui a été projeté il y a quelques jours à l'astronaute italien Luca Parmitano, actuellement à bord de la Station spatiale internationale. Quel a été son avis sur cette mise en abîme?
Alors, c'est marrant parce que avec Alice Monocourt, la réalisatrice, on lui a parlé à la station spatiale en Skype. Et je crois qu'il a beaucoup apprécié. Tous les astronautes qui l'ont vu se reconnaissent dans tout ce processus. Ça les émeut de voir les vrais lieux, là où c'est en train de tourner. Et Lucas, d'ailleurs, on l'a rencontré quand on tournait à Star City. Il s'entraînait à l'époque. Mais il était comme un gosse là. Il nous a montré, il nous a fait visiter toute la station spatiale. Il nous a expliqué. Enfin, c'était très touchant.
Il n'a pas été frustré de faire tout cet entraînement, d'approcher aussi près en fait de la condition d'un spationaute pour ne pas décoller finalement. De pas y aller pour demain.
Moi, ouais. Ah non, mais attendez, moi j'ai pas fait les exercices de centrifugeuse, de tabouret tournant. Et je n'ai pas la culture, enfin les capacités intellectuelles qu'ils ont. Je suis en grande admiration devant ces super humains. Mmh. Non, puis je pense que j'ai trop le vertige, je ne pourrais pas décoller.
Un mot aussi de votre partenaire féminine du film, la jeune Zélie Boulan-Lemel, l'enfant dont il va vous falloir temporairement vous séparer dans le film. Comment est-ce que vous avez travaillé avec elle et instauré cette relation très particulière ?
C'est quand même un luxe parce qu'on a eu le temps de répéter avant. Ce qui est rare maintenant sur les tournages, c'est que en général on débarque et bonne chance. Alors que là, on a eu le privilège d'avoir plusieurs séances de travail avec elle, de s'amuser, de s'apprivoiser, de créer un climat de confiance. Et j'espère que c'est crédible à l'écran.
Ça l'est.
Ah oui.
Eva Green, pardonnez-moi si je file une métaphore hasardeuse, mais cet astronaute que son métier sépare de ses proches, le temps de ses missions, est-ce que ça n'est pas aussi le destin de l'actrice que vous êtes ?
De quoi ? De jouer une astronaute ?
Non, d'être séparée des vôtres, le temps infini, d'avoir à partir loin, à rentrer dans un personnage, à vous couper en fait de la réalité, du quotidien, des...
Oui. Alors, moi, je n'ai pas d'enfant, j'ai juste un chien, ce qui déjà me pose pas mal de...
Comment s'appelle-t-il ?
Mr. Winston.
Mr.
Comme,
Winston.
Comme Churchill.
Ah oui, vous l'appelez Mr. Winston.
Mr. Winston. Et il a un nœud papillon, de, parfois. Il y a un cigare dans la bouche.
Vous êtes sûr que c'est un chien ?
Oui. Je ne sais pas, en fait. je ne sais pas. Oui, bah, ça demande beaucoup de sacrifices, mais moi, j'adore ce métier parce qu'il y a un côté un peu gypsy. Il n'y a pas la routine. On découvre des endroits extraordinaires comme ici, Baïkonour. Je viens de tourner 6 mois en Nouvelle-Zélande. Je pense que la question serait différente si j'avais un enfant. Là, c'est autre chose. Mais pour l'instant, je trouve que c'est... Moi, c'est un des, comment dire, des atouts majeurs de ce métier, le voyage.
On l'a dit, hein, vous avez toujours endossé des rôles assez extrêmes, qui nécessitent parfois des préparations un peu costauds. Quel est, jusqu'à aujourd'hui, le rôle qui vous a donné le sentiment d'aller le plus loin, de, peut-être de vous pousser dans vos retranchements ?
Peut-être la série télévisée Penny Dreadful, le personnage de Vanessa Ives. Parce que c'est déjà 3 ans de sa vie aussi, donc c'est très dark et on s'investit beaucoup.
Eva, pour finir, avant le film, quand on vous demandait quelle était votre nationalité, vous répondiez lunaire et citoyenne du monde. Aujourd'hui, vous vous sentez encore plus lunaire que citoyenne du monde ?
Martienne, peut-être.
Ah, vous êtes allée encore plus loin, quoi. Hein ? Vous êtes revenue ?
Je sais pas. Je crois que je suis toujours là-bas.
En tous les cas, le film, en attendant, le film s'appelle Le Proxima. C'est le nouveau film d'Alice Vinocourt. Ça sort demain et c'est un film pop. Merci infiniment, ma chère Eva, de nous avoir rendu visite. C'est
Merci
toujours un
beaucoup.
Plaisir de vous avoir dans ce studio. Avant de vous laisser partir, est-ce que vous savez faire ça ?
Non, attends. Là, ça.
Quoi ? Mais ça n'a rien à voir.
Pop.
Oui, bon, d'accord, ok, je prends. De toute façon,
non, c'était... je sais pas, je vais cracher sur votre micro, donc c'est pas très chic.
Je changerai la bonnette. C'était juste pour lancer les pop news.
Omar Sy dans le rôle d'un papa poule dans un film signé Michel Hazanavicius, ce sera dans Le Prince oublié, un papa qui chaque soir raconte à sa fille des histoires dont ils sont les héros jusqu'au jour où, à l'entrée du collège, eh bien la demoiselle n'a plus besoin des histoires de son père.
Chaque soir, au moment de l'endormir, le père de Sophia devient le prince de ses histoires.
Alors on était où déjà ?
Le prince s'est endormi à côté du coffre magique.
Ah voilà, c'est ça.
Ce monde imaginaire n'appartient qu'à eux. Et dans toutes leurs aventures, peuplées de chevaliers, de dragons et d'éléphants géants...
Salut, Hugo !
Il sauve sa princesse.
Comment ça, pas d'histoire ?
Papa, j'ai 11 ans. Je peux me les faire toute seule, mes histoires, maintenant.
Monsieur, vous pouvez pas entrer, l'histoire va commencer.
Pardon ?
Le prince va arriver.
Je suis le prince.
Il arrive.
C'est quoi, ça ?
Tu m'en veux pas ?
Bien sûr que non. Bonne nuit.
Le Prince oublié de Michel Hazanavicius avec Omar Sy, François Damiens et Bérénice Bejo. Ce sera le 12 février au cinéma.
Amis restaurateurs, elle a besoin de vous.
Salut, c'est Nikita Bellucci. Vous écoutez Pop-up Porn.
Et notre actrice classée X préférée a posté l'annonce suivante sur Twitter. Recherche restaurant, plutôt gastronomique, à privatiser pour un tournage. Smiley. Si c'est votre cas, que vous êtes gourmand, croquant et coquin, du coup, bisnikita@gmail.com.
Il y a des fins de carrière plus tristes que d'autres et les réseaux sociaux et les nouvelles applis sont là pour le surligner. Souvenez-vous de la fin des années 90 et du groupe Sugar Ray. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'entend que très moyennement parler de leur chanteur Mark McGrath, réapparu hier, puisqu'on a appris que désormais on peut l'embaucher via l'application Cameo pour larguer sa moitié.
It makes it very difficult when we're on the road, and it's hard. So Cheyenne is trying to let you know, Braden, that it's very, very tough for her to stay in this relationship. She still cares about you a lot. You never know what the future may hold. And she still wants to be friends with you because obviously she cares about you very, very much.
Voilà, si vous avez planifié une rupture, vous savez désormais à qui faire appel.
France Inter. Popopo. Antoine de Caunes.
Oui, c'est moi.
C'est pas Nikita Bellucci.
Mais si, c'est Nikita,
non, pas du
bien
tout,
sûr.
Alors, aucun rapport.
Merci Charline. Dans la suite de Pop, on va papoter de Pop avec le réalisateur Pop, Ryan Johnson. Mais avant ça, écoutons une pépite. Gimme Shelter, cet extrait d'un des meilleurs albums des Stones, selon mon goût, Let It Bleed, qui fête ses 50 ans et qui ressort en coffret absolument collector. Ça tombe bien, c'est bientôt Noël. Les Stones, Gimme Shelter. Les Stones, Gimme Shelter, et cet extrait de l'album Let It Bleed qui fête son 50e anniversaire, réédition extraordinaire. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Demain, dans les salles obscures, la possibilité d'aller dans les étoiles avec Eva Green, mais aussi de s'enfermer dans une maison avec Daniel Craig, une vieille connaissance d'Eva, mais pas n'importe quelle maison, celle du patriarche de la famille Frambay, célèbre auteur de Polar, retrouvé mort dans sa chambre alors que toute sa famille était justement présente et qu'ils semblent tous avoir de bons motifs, notamment financiers, de faire disparaître le pépé. Bande annonce.
Non.
Est-ce qu'on peut faire pause? Pourquoi vous posez toutes ces questions?
Repartons au début. Cette famille est totalement désespérée. Lorsque les gens sont désespérés, ils sortent les couteaux.
Si vous savez quelque chose, dites-le.
Et au casting d'à couteau tiré, Daniel Craig en policier, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Tony Collette, Chris Evans, qui compose cette famille dysfonctionnelle et possiblement meurtrière. Et au milieu de tous ces gens, Martha, la jeune infirmière en charge du patriarche, qui se retrouve obligée d'assister les policiers. À la réalisation, Rian Johnson, à qui on doit un Star Wars, un film de science-fiction Looper, et déjà un film ambiance polar drôlement bien ficelé qui s'appelait Brick. On lui a donc demandé quel avait été le déclic et donc ses références avant de se lancer dans ce qu'on appelle un Who Done It, soit un Qui l'a fait, un film à énigmes, durant lequel le spectateur dispose des mêmes indices que les protagonistes de l'action.
So Agatha Christie.
Tout commence avec Agatha Christie. J'ai grandi avec elle et je continue de la lire. J'avais envie de faire un whodunit, une intrigue à énigme. Mais je suis d'accord avec Hitchcock. Un des problèmes avec le film policier, c'est que ce n'est qu'une grande montée jusqu'à la grosse surprise finale. On joue avec le spectateur qui essaye de trouver le coupable. Pas évident de le tenir en haleine pendant 2 heures. Alors j'ai essayé d'intégrer la mécanique d'un thriller hitchcockien à l'intérieur d'un whodunit pour activer la machine du suspense et de l'empathie. Le spectateur s'attache au personnage de Martha, s'inquiète pour elle et veut savoir si elle va sortir de cette situation impossible. Et j'enrobe tout ça sur fond d'énigmes policières.
Dans le rôle de Benoît Blanc, le fin limier qui devra déterminer qui l'a fait, Who Done It ? Un Daniel Craig très drôle et inspiré, jouant ce que Rian Johnson définit comme un Hercule Poirot à l'américaine. Mais qu'est-ce que ça signifie au juste, Poirot à l'américaine ?
L'essence même de Poirot, mais aussi de Columbo ou Miss Marple, Jessica Fletcher, tous ces détectives de romans policiers, c'est qu'ils ont quelque chose qui fait que le meurtrier ne les prend pas au sérieux. Et les spectateurs non plus. Ils ont un côté comique, un peu clown, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'ils ont résolu l'énigme, qu'ils arrêtent le coupable et le mettent en prison. L'essence de Poirot, c'est qu'il est un peu maniaque, il a sa moustache, ses souliers qui lui font mal aux pieds, et il faut que ses œufs soient cuits de telle manière, il est un peu ridicule. C'est pour ça qu'au cinéma, Peter Ustinov est mon Poirot préféré. Il a ce côté clown du personnage, que Daniel Craig endosse aussi parfaitement.
Charline, vous penserez à me mettre un peu de côté des sources de poireaux, s'il vous plaît.
Oui, aucun problème. Juste avant un couteau tiré, Rian Johnson a réalisé, on le disait, Star Wars, Les Derniers Jedi. Alors on lui a forcément demandé si l'univers du polar se situait par rapport à Star Wars dans une galaxie si far, far away.
Oui, mais ce sont deux projets que j'ai adoré faire, qui m'ont autant intéressé l'un que l'autre. On pourrait croire que c'est très différent de tourner un film comme celui-ci ou de faire Star Wars. Mais pas tant que ça, en fait. Vous savez, ce qui fait qu'un film marche, ce sont les acteurs. Si les scènes fonctionnent bien, c'est grâce aux acteurs. Quand leur regard s'accroche vraiment, toutes ces choses importantes, ce sont les mêmes. Que vous soyez à bord d'un vaisseau spatial ou dans une bibliothèque. Donc oui, ce sont deux projets très différents, mais au fond, pas tant que ça. Parce que les recettes du succès restent les mêmes.
Et quand on tient le réalisateur de Brick, Star Wars, Looper, quelques épisodes de Breaking Bad, et donc à couteau tiré, on lui demande...
Ryan Johnson, what is it for you, la pop culture, hein?
I'll tell you, there is something.
Je vais vous dire.
Experiencing putting out.
Ça a été une expérience très particulière.
Putting something out that
de
felt like
sortir un film de la saga Star Wars, puis un film comme celui-ci, d'un style très personnel, et de les voir distribués tous les deux dans les salles du monde entier, vus par des gens de cultures très différentes, c'était assez dingue. Ça a été vraiment une expérience intense, incroyable. C'est pour ça que j'aime faire des films, quand ils sortent aux quatre coins de la planète et pas pour un public limité.
Not just limited. That's why I like. I am.
Je crois que j'ai chopé le virus du divertissement populaire. Et je veux que tout le monde adopte la pop culture, parce que c'est ce qui touche les gens.
That's what it's all about.
C'est ça qui compte.
À couteau tiré de Ryan Johnson et que ça sort demain et que c'est un film pop pop pop. On approche de la fin de l'émission et c'est l'heure pour moi d'aller chercher le dernier vinyle. Allez, j'appelle mon ascenseur. Qu'est-ce que je vais aller aujourd'hui? Tiens, direction le moins 4. Bah, où on est là? J'en connais rien. Dumbo, mais qu'est-ce que tu fais là, mon petit Dumbo? Mais par où t'es passé? Oh, t'es enrhumé, toi, hein? Quoi? T'es venu dire bonjour à Eva Green? Bah, c'est sympa, ça.
Now, say my name.
Walter White? Mais vous êtes là aussi, vous? Ah, mais oui, je comprends, c'est pour Ryan Johnson. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qui c'est celui-là? Il faut arrêter de fumer, monsieur. Ah, Dark Vador! Oh, bah alors ça veut dire qu'il y a toute la pop culture? Eh, hey, oh, ça fait mal, ça, ça vient d'où? Daniel Craig! Mais qu'est-ce que vous faites là, Daniel Craig? Et pourquoi vous me tirez dessus?
Maintenant, le monde entier saura que c'est en me grattant les couilles que vous êtes mort.
Ah ouais? Eh ben, je peux vous dire que dans quelques instants, vous gratterez plus rien ni personne. Hein. Alors, hein? Non. Bon, moi, à la base, je venais juste chercher un vinyle. En plus, il m'attachait ma chemise, ce con. Bon, allez, le temps que je mette du K2R, on écoute Marcel Artero. Mais oui, Marcel Artero, les drogués du 45 tours.
Salut, barman. Un disque, s'il te plaît. Merci. Elles font marcher les fous, toutes ces machines à sous. Ils claquent tout leur sous dans ces machines à sous. Le disque les emporte, ils sont tous envoûtés. Ils frappent sur les portes, ils en sont tous drogués. Les drogués, les drogués du 47 tours. Les drogués, les drogués des succès du jour. Les drogués. De leur cri d'amour. Les drogués du 45 tours. Ah, c'est terrible, barman. Plus fort. Merci, barman. Elles font marcher les fous, ils ont claqué leurs sous. Il rentre à pas de loup et montre peu de goût. Le sommeil les emporte, usés et fatigués, leur tête pleine de notes, dont ils sont tous drogués. Les drogués, les drogués du 45 tours. Les drogués des succès du jour. Les drogués. Les drogués du 45 tours. Ah, c'était terrible. Allez, ciao. À demain. Elles font marcher les fous, toutes ces machines à sous. Ils se lèvent comme des fous, cherchent leur dernier sou. Leur folie les emporte. Ils se donnent rendez-vous et ils ouvrent des portes vers les machines à sous. Les drogués,
les drogués du 45 tours, les drogués, les drogués des succès du jour, les drogués, ils sont mis de leur cri d'amour, les drogués. Les drogués du 45 tours, c'est drogué, c'est drogué, tous drogués, c'est drogué,
tous drogués. Marcel Artero.
On est à l'antenne, je crois.
Pardon. Mmh. Les drogués du 45 tours, vous avez connu Marcel Artero?
Absolument pas, Antoine.
Non, moi non plus. C'était dans Pop sur France Inter.
Vous avez reçu des messages à propos de votre ordinateur? Rien du tout.
Non, pour l'instant,
perdu.
Rien. Mais
manifestez-vous si vous trouvez l'ordinateur d'Antoine.
J'ai confiance. Merci à tous. Je rappelle nos deux pop prescriptions du jour. Proxima, le film d'Alice Vinocourt avec Eva Green qui sort demain, tout comme le film de Rian Johnson, À couteau tiré. Voilà deux films qui sont très pop. Merci d'ailleurs à l'équipe de Pop, Claire-Sophie Picolet, à la réalisation, à la technique Tiffany Battistel, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Simon Restat et Margot Page, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka, c'est lui qui a bien connu, je crois, Marcel, le machin, à la traduction Eve Dair et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain, dans Pop, on parlera de livres et de jeunesse avec Marie Desplechin et Arnaud Valois. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse, bien sûr, à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme dit Dark Vador à la fin de ses tutos « Comment soigner une angine » sur YouTube.
Et non, ça c'est Nicolas Hulot, c'est pas... Ça
arrête,
pas
arrêtez
bien.
De m'humilier comme ça, Charlie, c'est très désagréable. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615 pop sur Instagram et Twitter.